Session de philosophie par le Père Marie-Dominique Philippe, le 8 juillet 1992 à Saint-Jodard. Thème, la vérité.
l'Apocalypse nous montre que la lutte continue contre la femme, qui symboliquement représente Marie, l'Église et la petite créature que nous sommes, la Benjamine. La femme, c'est la Benjamine. Et nous sommes, comparativement aux anges, tous des Benjamins. Tous des petits derniers. Beaucoup moins intelligents que les anges. Mais ayant une force tout à fait secrète qui vient directement de l'Esprit Saint. Notre foi, notre espérance et notre charité. Et dans l'Apocalypse, c'est l'avantage de l'Apocalypse, on développe beaucoup cette lutte. Et quand le démon poursuit la femme au désert, il est vaincu aussi. Mais on voit qu'il revient au combat en se servant de la bête de la terre et la bête de la mer, ce qui n'était pas dit dans l'Évangile. Autrement dit, la bête de la terre et la bête de la mer, c'est le démon qui se sert des hommes pour tenter l'homme. C'est le démon qui fait une alliance avec l'homme pour attaquer d'une manière plus subtile et d'une manière plus cachée l'homme. Alors, cela doit nous aider beaucoup à comprendre que si le démon en personne a attaqué Jésus, et qu'il a été obligé de partir, d'obéir malgré lui à Jésus. Retire-toi, Satan. Il revient en se servant des hommes. La bête de la terre, la bête de la mer. Et c'est cela que je crois que nous voyons dans le chapitre 8. Le démon se sert des grands prêtres. Le démon se sert de Judas. Le démon se sert de la mauvaise humeur de tous ceux qui sont les pharisiens et les scribes, de tous ceux qui discutent à l'égard de Jésus. Le démon se sert d'eux pour s'approcher de Jésus et continuer la lutte. Et quand je regarde dans ce chapitre 8, où nous voyons au début de ce chapitre 8, Jésus qui fait le geste de miséricorde si étonnant à l'égard de la femme prise en flagrant d'adultère, où on voulait tenter Jésus, où l'on voulait que Jésus soit obligé de trancher en faveur de la loi, contre la miséricorde, ou bien en faveur de la miséricorde, contre la loi. Vous voyez, il est pris dans un dilemme. Cette femme est prise en flagrant délit d'adultère. Selon la loi, elle doit être lapidée. Si Jésus n'accepte pas de la lapider, il est contre la loi. Et si Jésus accepte de la lapider et de suivre la loi, il se met en contradiction avec toute l'attitude qu'il a prise jusque-là, le point de vue de la miséricorde. C'est pour ça que le chapitre 8 commence par une lutte sournoise. C'est jusqu'au bout, faire miséricorde. Et c'est les pharisiens et les scribes qui ont fait ce qu'ils ont eux-mêmes, sous l'influence du démon, mis Jésus à l'épreuve. Et nous savons très bien que Jésus n'entre pas dans ce dilemme. Jésus n'accepte pas. La miséricorde ne détruit pas la loi. Et la loi, si elle est dépassée, permet à la miséricorde de surabonder. Jésus ne tranche pas, il se courbe et il écrit sur le sable. Qu'est-ce qu'il écrit? On le verra au ciel. On peut faire des hypothèses. Ça m'étonnerait pas qu'il écrive tous les péchés des accusateurs de la femme sans mettre leur nom. Dans telle circonstance, dans telle circonstance. Et il voit ça. Alors ça explique, vous voyez, la parole de Jésus. De certains prenons l'évangile tel que l'Église le garde pour nous. Parce que ces opinions d'exégètes, quand elles ne sont pas encore confirmées par l'Église, ne sont pas la norme de notre foi. Il ne faut pas l'oublier. La norme de la foi, c'est l'enseignement actuel de l'Église sur la parole de Dieu. Ce qui est très beau, c'est de voir ce lien entre la miséricorde et la lumière. Quand quelqu'un est très miséricordieux, on a la tentation de dire il ne connaît pas tous les détails, il ne voit pas la situation en face, objectivement. Autrement, il ne dirait pas ça. C'est le vieux philosophe Aristote qui disait la miséricorde, c'est le fait des mères. C'est la faiblesse des mères en face de leur enfant qui s'est mal conduit. Mais ce n'est pas une vertu. Aristote ne reconnaissait pas à la miséricorde le droit de citer parmi les vertus. Et Jésus instaure, on ne peut pas nier, un absolu dans la miséricorde. Et c'est ce qu'il nous enseigne dans l'Évangile. Et ici, il lit la miséricorde et la lumière. Si la lumière est la vérité, on le verra. Si la lumière est la vérité, alors on voit comment la vérité est source de miséricorde. Nous y reviendrons là-dessus, si on a le temps. C'est une chose très belle à voir. Ce qui est sûr, c'est que, ayant fait ce geste de miséricorde, Jésus affirme, moi, je suis la lumière du monde. C'est-à-dire, la lumière de l'homme dans tout ce qu'il est. Je ne connais parfaitement l'homme qu'à travers Jésus. Je peux le connaître parfaitement. C'est Jésus qui est la lumière du monde. Donc la lumière de l'homme comme tel. Et à partir de ce moment-là, va commencer une nouvelle lutte entre Jésus et ceux qui sont là. Jésus donc leur dit, quand vous aurez élevé le Fils de l'homme, alors vous connaîtrez que moi je suis, et que de moi-même je ne fais rien, mais ce que m'a enseigné le Père, c'est cela que je dis. Et celui qui m'a envoyé est avec moi. Il ne m'a pas laissé seul, parce que moi je fais toujours ce qui lui plaît. Comme il disait cela, beaucoup crut en lui. Jésus disait donc aux Juifs qu'il l'avait cru. Si vous, vous demeurez dans ma parole, à moi, vous êtes vraiment mes disciples. Là, vous voyez le mot vraiment. C'est intéressant de voir, n'est-ce pas, l'adverbe. Être vraiment le disciple. Pas la même chose que d'être de vrais disciples. C'est tout l'être qui est pris dans cette manière particulière d'être vrai. Si vous vous demeurez dans ma parole à moi, vous êtes vraiment mes disciples et vous connaîtrez la vérité. Et la vérité vous libérera. Verset 32, chapitre 8. Ils lui répondirent, nous sommes la descendance d'Abraham. Et personne, et de personne, nous n'avons jamais été esclaves. Comment toi peux-tu dire, vous deviendrez libre? Jésus leur répondit, en vérité, je vous le dis, mais vous cherchez à me tuer, parce que ma parole à moi n'a point d'accès en vous. Ce que moi j'ai vu auprès de mon Père, je le dis. Et vous donc, ce que vous avez entendu de votre Père, vous le faites. Ils répondirent et lui dirent, notre Père, c'est Abraham. Jésus leur dit, si vous êtes enfants d'Abraham, faites les œuvres d'Abraham. Mais non, vous cherchez à me tuer, moi, un homme qui vous ai dit la vérité, que j'ai entendu de Dieu. Cela, Abraham ne l'a pas fait. Vous faites, vous, les œuvres de votre Père. Ils lui dirent, nous ne sommes pas nés de la fornication. Nous n'avons qu'un seul Père, Dieu. Jésus leur dit, si Dieu était votre Père, vous m'aimeriez, car moi, c'est de Dieu que je suis sorti et que j'arrive. Car ce n'est pas de moi-même que je suis venu, mais celui-là m'a envoyé. Pourquoi ne connaissez-vous pas mon langage à moi? Parce que vous ne pouvez entendre ma parole à moi. Vous avez, vous, le diable pour père, et ce sont les convoitises de votre père que vous voulez accomplir. C'est très fort, voyez. C'est sûrement le passage le plus pénétrant dans la lutte. Jésus fait le discernement entre ceux qui sont envoyés du Père, qui sont fils du Père, et ceux qui sont fils du démon. Vous comprenez bien que la paternité du démon est une fausse paternité. Mais c'est très important de comprendre que ce que le démon veut, c'est imiter faussement Dieu, et tout spécialement la paternité. On l'a dit, n'est-ce pas, qu'avec Freud, la paternité était tuée, massacrée. Vous voyez, l'attaque du démon, c'est toujours par rapport au père. C'est très important de comprendre ça. Le père comme père, il est au-delà de l'autorité. Le père est source de lumière, de vie et d'amour. Et le Père exerce l'autorité pour enseigner, éduquer. Mais ce n'est pas toute la paternité. La vraie paternité est au-delà de l'autorité. C'est une paternité d'amour et de lumière. Et c'est ce que le démon voudrait, lui. Il a une rage contre la fécondité. Il ne peut pas supporter la fécondité parce qu'il est stérile, d'une stérilité terrible. Sa seule paternité, c'est une paternité dans le mensonge. Il est le père du mensonge. Alors, au milieu de cette lutte, quand Jésus déclare au temple que son peuple, qu'il aime, est en train de dévier et de se mettre sous le joug du démon, d'accepter la paternité du démon. C'est terrible, ça. Et c'est à ce moment-là où Jésus déclare que lui qui est la vérité, il le dira, il est la lumière. Celui qui reçoit la vérité, celui-là est libéré de l'esclavage du péché. L'esclavage du péché, c'est de ne plus aimer. L'esclavage du péché, c'est de demeurer dans l'erreur. L'esclavage du péché, c'est de rester dans la haine. Tandis qu'au contraire, Jésus, qui est la vérité, apporte ce qui est affirmé là, n'oublions pas ce passage si important de la grande prière sacerdotale du Christ, de la grande prière du Fils bien-aimé, chapitre 17. Jésus parla ainsi, et levant les yeux au ciel, il dit : Père, elle est venue l'heure, glorifie ton Fils, afin que le Fils te glorifie, selon que tu lui as donné pouvoir sur toute chair, afin qu'à tout ce que tu lui as donné, il donne à cela la vie éternelle. Et telle est la vie éternelle, qu'il te connaisse, toi, le seul véritable Dieu, et celui que tu as envoyé, Jésus-Christ. Moi, je t'ai glorifié sur la terre en accomplissant l'œuvre que tu m'as donné à faire. Et maintenant, toi, Père, glorifie-moi auprès de toi de la gloire que j'avais auprès de toi avant que le monde fût. J'ai manifesté ton nom aux hommes que tu m'as donné du milieu des hommes, du milieu du monde. Ils étaient à toi et tu me les as donnés. Ils ont gardé ta parole. Et un peu plus loin, moi je leur ai donné ta parole, et le monde les a pris en haine, parce qu'ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Je ne prie pas pour que tu les enlèves du monde, mais pour que tu les gardes du mauvais. Ils ne sont pas du monde, comme moi je ne suis pas du monde. Consacre-les dans la vérité. Ta parole à toi est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux, je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. C'est quelque chose de très grand, cette prière de Jésus, cette prière du Fils bien-aimé à son Père. Moi, je leur ai donné la parole et le monde les a pris en haine. Vous savez que le monde, dans l'évangile de Saint Jean et dans la première épître, peut prendre deux significations tout à fait différentes. Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils. Donc là, on voit que Dieu aime le monde. Et ici, il est dit juste inverse. Et le monde les a pris en haine, les disciples du Christ. Si le monde les a pris en haine, ce n'est pas le monde que le Père aime. Donc le monde prend deux significations tout à fait différentes. C'est ou bien le monde soumis aux influences du démon. Le monde des pécheurs, les trois concupiscences, conséquences du péché originel qui sont en nous. La concupiscence de la chair, la concupiscence des yeux, la concupiscence de la vie. C'est le monde sous la mouvance du démon. Et il y a le monde qui représente l'homme qu'il faut sauver. L'homme créé à l'image de Dieu. L'homme capable de recevoir la grâce. L'homme capable d'être sauvé par Jésus. Ici, c'est très net. Il s'agit du monde abîmé par le péché. Et Jésus, disant lui-même qu'il ne veut pas nous arracher à ce monde, il ne veut pas qu'on soit enlevé à ce monde, ce monde de pécheurs, dont on fait partie du reste. C'est trop facile de diviser l'humanité en disciples du Christ qui sont bons et les disciples du et des autres qui sont mauvais. Évidemment, on se met toujours du côté des bons. Alors que Jésus nous dit, pour chacun d'entre nous, il y a le bon grain et il y a la cisanie. Il y a le mauvais grain. Et Jésus nous dit qu'il ne s'agit pas, ici sur la terre, de faire le partage par nous-mêmes. Parce qu'on arracherait le bon grain en arrachant le mauvais grain. Voyez, c'est excellent ça. Il ne s'agit pas de faire un examen de conscience à la manière stoïcienne. Il s'agit de reconnaître qu'on est pécheur et demander à Jésus la grâce de ne plus pécher et de lutter avec lui et de ne pas nous violenter d'une façon telle qu'on se diviserait en deux le bien et le mal. Non. Notre sensibilité peut être pour ce qu'il y a de meilleur et notre sensibilité peut jouer des tours, peut nous jouer des tours terribles. Jésus nous laisse dans le monde et dans les luttes. Pourquoi ? Pour que nous puissions être unis à lui, unis à son combat. Jésus nous aime tellement, le Père nous aime tellement qu'il ne veut pas que nous recevions tout de la manière la plus gratuite qui soit. On risquerait d'être des enfants gâtés. Il veut que nous combattions avec lui parce que nous sommes des amis. Comme lui a combattu, nous devons combattre. Mais la différence est que lui est absolument lucide et qu'il est fort. Nous ne sommes pas absolument lucides. Et on risque constamment de confondre. On risque constamment de ne pas voir la différence suffisamment nette entre notre imagination et puis la volonté du Père et la mauvaise graine que le démon a plantée dans le champ de Dieu risque toujours de nous faire confondre le bien et le mal. Alors, il faut bien saisir, Jésus sait tout cela, et il nous laisse dans le monde, et il nous laisse dans la lutte. Mais s'il nous donne faut aimer la parole de Dieu pour être consacré dans la vérité. Et c'est par la parole de Dieu que nous pouvons être consacrés dans la vérité. C'est en recevant cette parole et en vivant de cette parole et en comprenant que cette parole nous enseigne, qu'elle nous forme, que cette parole tue dedans, nous détermine et nous conduit à notre finalité. Que cette parole nous donne une force intérieure parce qu'elle écarte tout ce qui n'est pas la vérité. La parole de Dieu est comme un glaive qui peut séparer ce que les tentations ont voulu confondre et que dans notre fragilité et dans notre imagination nous confondons si facilement. Alors elle est très forte cette prière, consacre-les dans la vérité. Ta parole à toi est vérité. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Alors voyez bien le parallélisme. Jésus est l'envoyé du Père par excellence. Et en tant que chrétien, nous sommes tous des envoyés de Jésus à l'égard de ceux que nous rencontrerons sur notre route. On est réciproquement des envoyés de Dieu. C'est très beau ça. Je suis pour vous un envoyé de Dieu et vous êtes pour moi un envoyé de Dieu. Ce qui fait qu'on ne regarde plus l'homme. L'envoyé de Dieu. On ne regarde plus la fragilité et la faiblesse de l'homme. On regarde l'envoyé de Dieu. Qui lui, parce qu'il est envoyé de Dieu, est un avec Dieu. Et ne fait plus qu'un avec Dieu. Il peut à ce moment-là être dans l'unité parfaite. Et la prière de Jésus est toujours là pour réaliser cette unité, qu'il soit un comme nous. Et être consacré dans la vérité, c'est pour être un à la manière dont Jésus est un avec le Père, éternellement. Comme tu m'as envoyé dans le monde, moi aussi je les ai envoyés dans le monde. Et pour eux je me consacre moi-même, afin qu'ils soient eux aussi consacrés en vérité. Voyez bien, ici Jésus nous explique comment être consacré en vérité. C'est d'adhérer à Jésus lui-même qui est consacré dans la vérité. En raison du mystère de l'union hypostatique, la nature humaine dans le Christ étant liée à Dieu, au Père, d'une manière éternelle, indélébile, nous sommes avec lui et en lui dans cette même unité. Et donc, on est bien consacré dans la vérité. Il y a une petite question. Que veut dire consacré dans la vérité par rapport à consacré à la vérité? Vous voyez, on se consacre à quelqu'un, c'est-à-dire qu'on met toutes ses forces pour réaliser ça. Quand vous dites « je me consacre aux lépreux », « je me consacre aux handicapés », l'alliance avec le pauvre, comme on fait à l'arche. Se consacrer à quelqu'un, à une œuvre, c'est ordonner toutes nos énergies, tout notre capital de vie à réaliser cette œuvre. Donc on est consacré à la vérité. demande ça au Père. Consacre-les dans la vérité. C'est pas la même chose. Être dans la vérité. Cette vérité, ça ne peut être que Dieu. Donc dans la vérité absolue, Dieu étant vérité, peut soumettre à lui. Et être consacré dans la vérité, c'est justement faire qu'au plus intime de notre âme spirituelle, de notre intelligence et notre volonté, nous ouvrions tout grand à l'action directe de Jésus qui veut nous consacrer à la vérité, aux touches de vie. Consacre-les dans la vérité, c'est pour montrer combien la vérité nous possède, combien nous pouvons être possédés par la vérité, puisqu'on est consacré dans la vérité, et que toute notre vie ne peut s'épanouir pleinement que dans la vérité. Vous voyez, être consacré à la vérité, c'est un but auquel on se consacre. Se consacrer dans la vérité, consacrer dans la vérité, c'est montrer beaucoup plus cet aspect immanent, si fort, si profond, mais qui demande justement la très grande pauvreté. Très grande pauvreté intérieure pour que tout soit en attente de la vérité, pour que tout en nous soit ouvert à la vérité et ne mettre aucune cloison. Ne mettre absolument aucune opposition, et non seulement opposition, mais aucun obstacle, qu'on soit saisi et pris par cette vérité qui nous attire, qui nous prend, et qui doit faire de nous des enfants de Dieu et des fils de Dieu. On se consacre donc dans la vérité, par la prière du Christ. Et c'est le Christ qui lui-même nous prend, nous saisit de l'intérieur pour que nous soyons tout à lui, pour que nous soyons entièrement à lui et que toute notre vie ne soit plus qu'à lui. C'est un très grand absolu. Jésus ne pouvait pas dire quelque chose de plus grand. D'être consacré dans la vérité. Quant à notre imagination, quant à nos sensibilités, notre sensibilité, nos passions, que tout soit saisi de l'intérieur par la vérité. Et Jésus seul peut opérer ce qu'il y a de si difficile. C'est lui seul qui peut supprimer de nous toute trace d'erreur, toute fuite devant la vérité, et nous prendre radicalement à lui. C'est l'unité